Kiosque Magazine.
Nous sommes le vendredi 10 octobre. Bienvenue à Kiosque Magazine sur le thème de la culture et des loisirs. Je m'appelle Charles Roy et je serai à vous avec une heure pour une superbe émission. On a une belle émission devant nous, chargée. Il sera question des sorties de la semaine, un festival à Québec du folklore d'ici et d'ailleurs. Mara Tremblay sort son nouvel album. Je vais vous parler aussi du film Les Apparences qui est dans tous les écrans du Québec. Au théâtre Christian Lapointe à Québec, nous propose Outrage au public, un spectacle pour le moins spécial. En cirque, Geneviève Bessette, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une étoile montante du cerceau. Donc, je vous en parle avec son spectacle « Je suis ce que nous sommes ». En deuxième partie de l'émission, le Festival international de la poésie de Trois-Rivières. Aussi, une exposition au lac Mégantic qui s'appelle « La marche du vent ». Je vous parle aussi de la nouvelle exposition au Musée canadien de la guerre. Et sur la route, je vous amène en Gaspésie et à l'île Perrot. Mais tout d'abord, les sorties de la semaine, sorties de disques de la semaine, oui. Philippe Beauchemin dans la presse, c'est lui qui les écrit. C'est paru le 7 octobre dernier. 4 de ces 5 propositions vous seront lues. La première, Weezer, Everything Will Be Alright in the End. Après 2 offrandes froidement accueillies par les amateurs de la critique et une courte pause, le groupe mené par Rivers Cuomo revient à ce qu'il a fait de mieux. Du rock californien bien électrique aux ritournelles contagieuses. Everything Will Be Alright in the End rappelle les beaux jours de Weezer qui se sont déroulés de 1994 à 2001. Le disque Our Love de Caribou. Attendu, le disque du Canadien Dan Snate, alias Caribou. Si Swim avait rapidement quitté les chaumières pour gagner les pistes de danse en 2010, nul doute que ce nouvel album permettra encore une fois le déhanchement communal. Et c'est bien ce que souhaite le principal intéressé. Il faut trouver les moyens de faire bouger les gens, se répète-t-il durant le processus de création d'Our Love. Si la dictée porte sur la mélancolie, la musique, elle, fait vibrer le squelette tout entier. Moist sort son album Glory Under Dangerous Skies. Le groupe canadien, qui s'est fait entendre haut et fort durant la période grunge avec l'album Silver, revient avec un nouvel album après une pause de 15 ans. Et c'est à Montréal que le chanteur David Usher a trouvé les membres prêts à relancer le projet Moist. Tous ces changements n'ont cependant pas modifié le son qui a fait le succès du groupe au siècle passé. Et finalement, je termine avec l'album de Stevie Nicks, 44 Karat Gold, Songs from the Vault. C'est vers son passé que la chanteuse continue pour son rôle essentiel au sein du groupe Fleetwood Mac. S'est tournée pour ce nouveau disque. Au total, 18 chansons écrites de 1969 à aujourd'hui, mais qui n'avaient pas encore été enregistrées pour une raison ou une autre. Un album qui retrace la vie mouvementée de cette femme connue par son extrancité vestimentaire et sa tignasse blonde et sa voix juste et claire. Tous ces albums sont dans les bacs aujourd'hui. À Québec, les quartiers de la Place Royale et du Petit Champlain vibreront au rythme de la musique traditionnelle à partir de demain, jusqu'à lundi, à l'occasion des rendez-vous Estrade de Québec, un festival en place sous différentes appellations depuis 91 et consacré au folklore d'ici et d'ailleurs. C'est Yann Bussière dans le Soleil qui nous en parle, son texte « Rendez-vous Estrade » paru le 8 octobre. Cette année, une cinquantaine d'artistes composent la programmation des rendez-vous avec, en vedette, le guitariste ontarien Tony McManus. McManus. Le musicien de 49 ans présentera non pas un, mais bien deux spectacles lors du festival. Le premier ce soir aux voûtes de la Maison Chevalier et le second dimanche au Petit Théâtre Champlain. Originaire d'Écosse, Tony McManus se distingue depuis plusieurs années comme un guitariste de premier plan dans le domaine de la musique celtique, adaptant entre autres à la guitare des pièces écrites d'abord pour les violons et les cornemuses. Parmi les autres têtes d'affiche, notons le commuseur, c'est comme ça qu'on appelle les joueurs de cornemuses. Qui vient d'Irlande, Fiachra O'Regan, qui donnera dimanche un atelier de cornemuse, oui, et un spectacle en compagnie de la violoniste et chanteuse Sophie Lavoie. Samedi, le guitariste André Marchand, membre fondateur de la Bottine Souriante, et l'accordéoniste, harmoniciste et chanteur des Charbonniers de l'Enfer, Normand Miron, présenteront des spectacles en solo à la Maison Chevalier en après-midi, pour ensuite se produire en soirée au Petit Théâtre Champlain au sein du trio Le Bruit court dans la ville, complété par la violoniste Lisa Ornstein. La programmation complète du festival est disponible en ligne. Pour ceux qui ont accès à Internet, c'est le estrade.qc.ca.
Unto me, pay attention. Don't ever fall in love. It's the devil's own invention. Once I fell in love with the lady so bewitching, Miss Henrietta Bell, known in Captain Careless Kitchen. We'll be toodle-a-la-la-la, toodle-a-la-la-la-la. Not far from Stephen's Green, where Miss Henry used to go, sir. Her manners were so fine, she set my heart a-twitching. She invited me to a court in the kitchen with me. To have her flare up, I dressed myself quite gay, and I frizzed and oiled me hair up. The captain had no wife, he had gone out fishing, so we kicked up my life to a hooly in the kitchen with me. Down the stairs wearing nothing but her nightie, with her arms around me waist, she slyly hinted marriage, went to the door in haste, came Captain Kelly's carriage with me. Situation. In spite of all me prayers, I was marched off to the station. For me, they set no bail, though to get home I was itching, and I had to tell the tale of how I came into the kitchen. When I swore she didn't bite me, though she gave a flat denial. For assault they did indict me, and I was sent for trial. She swore I robbed the house in spite of all me screeching, and I got 6 months hard from me courting in the kitchen with me toodle-a-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-
On vient d'entendre Courtin' in the Kitchen de Garlic Storm. L'automne est ma saison préférée. J'adore la fraîcheur, la lumière, le changement de cette période de l'année. L'air est bon, c'est un moment propice pour la création. C'est vrai que mon disque niche dans la palette de la couleur de la saison. J'avais envie de lumière, je souhaitais que ça scintille. J'essaie toujours d'aller vers quelque chose de positif, quelque chose qui fait du bien. Pour cet album, ça allait encore plus de soi. Même les chansons plus dures ont cette touche lumineuse. Probablement parce que je suis davantage dans le bonheur maintenant. Ce sont les mots de Marat Tremblay qui introduit le texte de Karine Tremblay dans la Tribune. Ça a été écrit le 8 octobre. Marat Tremblay, soleil d'automne. Il y a des parfums d'automne dans le sixième disque de Marat Tremblay. Un mélange de mélancolie et de lumière savamment dosé dans les mots comme dans les mélodies. La phrase n'est pas anodine. Marat Tremblay a connu des heures moins zen. Je suis vraiment ailleurs maintenant. J'ai eu besoin de thérapie et de médication. Je suis bipolaire. Tant que ce n'est pas diagnostiqué, tu ne reçois pas l'aide dont tu as besoin. Tu peux sombrer loin. J'en parle ouvertement parce qu'il y a beaucoup de tabous autour de la maladie mentale. Les gens cachent leur état, leur fragilité et se referment sur eux-mêmes alors qu'il faudrait en faire l'inverse. Enfin, on vit chacun les choses à notre façon, mais pour moi, le diagnostic a complètement changé ma vie. Et par ricochet, celle de mes proches. Amour, amour, amour. Amour qui se noue, amour qui se découd, amour filial, amour amical. Les soubresauts du cœur teintent les textes de la Neuve Galette. Il est beaucoup question d'amour dans l'amitié et de l'amitié dans l'amour. Je trouve qu'il y a de la beauté là-dedans, dit-elle. Ça correspond aussi à ce que je vis. Je suis en harmonie avec tous mes anciens amoureux. Ce sont de bons amis avec qui je travaille régulièrement. Ça fait partie de moi, probablement parce que mes parents étaient comme ça. Les racines folk s'entendent encore. Elles sont cependant enrobées de claviers et de sonorités percussives. La voix de Mara, elle, a toujours ce grain particulier. Mais elle se dépose différemment sur les plages musicales. Enfant, je rêvais d'être chanteuse d'opéra et je souffrais d'avoir une voix à part, une voix de klaxon. Ça me complexait. Depuis, j'ai improvisé mes cordes vocales. J'aime de plus en plus jouer avec ma voix et mes nuances. C'est un bel instrument. L'album de Marat Tremblay, À la manière des anges, est disponible en magasin. Allons maintenant en cinéma. Le film Apparence de son titre original Gone Girl sera peut-être sous vos yeux bientôt. En tout cas, il est à l'affiche au cinéma. Marc-André Lucier dans la presse vous en propose un regard. Ça s'intitule Gone Girl, scène de la vie conjugale. Il a donné 4 étoiles au film. C'est paru le 2 octobre. David Fincher a réussi son pari sur tous les fronts. Gone Girl est un thriller de toute première classe qui fonctionne sur plusieurs niveaux. En portant à l'écran le roman à succès de Gillian Flynn, qui signe elle-même le scénario de cette adaptation cinématographique, le méticuleux cinéaste propose tout à la fois un suspense captivant, un drame conjugal impeccable, ainsi qu'une satire féroce des médias. De la même manière que Nick Dune, joué par Ben Affleck, le protagoniste du film, le spectateur sera amené à remonter le fil des événements ayant mené au drame de ce fabuleux matin du 5 juillet. Ce jour-là, alors que son couple célèbre son 5e anniversaire de mariage, Nick découvre sa maison saccagée en revenant du boulot. Des meubles sont brisés, quelques traces de sang peuvent être vues. Surtout, son épouse Amy, jouée par Rosamund Pike, reste introuvable. Des policiers rappliquent alors pour faire enquête. Les fils s'attachent mal. Les médias s'emparent de l'affaire. La gueule de star de cinéma de Nick est trop suspecte. Il y a sans doute anguille sous roche. À l'aide de Retour en arrière, on retracera l'histoire de ce couple idyllique new-yorkais qui, après quelques malchances, est venu s'installer dans une bourgade de Missouri. Amy, aussi l'héroïne d'une série populaire de contes pour enfants écrits par ses parents, assure la narration. Truffée de revirements de situation, l'intrigue se transforme alors au gré des révélations. et se concentre sur une dynamique de couple qui a évolué de façon pour le moins étrange au fil des ans. C'est un peu comme si Hitchcock avait croisé le fer avec Bergman. La vraie star, Fincher. Rosamund Pike, qui a joué notamment dans An Education et Jack Reacher, module avec grâce toutes les nuances d'un personnage à tout coup surprenant. De son côté, Ben Affleck se glisse dans la peau du suspect, transi, en prêtant à ce dernier son charisme naturel. Autour d'eux, chaque personnage se révèle convaincant. La vraie star du film est toutefois David Fincher, la réalisation de celui qui a notamment offert Seven et The Social Network, qui est impeccable. Preuve de réussite, son film est construit de telle sorte que non seulement il captive du début à la fin, mais il laisse aussi le spectateur réfléchir à la suite des choses. Gone Girl est avant tout une histoire de manipulation, mais il n'est pas dit que tout reste blanc ou noir entre les personnages. Pas plus qu'entre eux et le spectateur. Donc, il donne 4 étoiles à ce film. Ce film, à la version française, s'appelle Les Apparences, est en cinéma. Christian Lapointe, cet acteur et créateur, propose à Québec une reprise de son spectacle qui s'intitule « Outrage au public ». Isabelle Houle, dans Le Soleil, nous en parle. Christian Lapointe, « Outrage à un hommage au public ». C'est paru le 8 octobre. En 1966, l'Autrichien Peter Eckel faisait école en présentant « Outrage au public », devenant en quelque sorte le père de la non-représentation au théâtre. Presque 50 ans plus tard, Christian Lapointe a eu l'idée de donner une nouvelle vie au texte en le prenant au pied de la lettre, avec les moyens d'aujourd'hui, la voix de synthèse. Étonnamment, on dirait que ça a été écrit hier pour être fait comme ça aujourd'hui, constate l'artiste. Le spectacle a été présenté une première fois pendant le mois multi l'an dernier, puis au Festival Transamérique, le FTA, à Montréal, cette année. Il est de retour pour une série de 6 représentations au studio d'essai de la coopérative Méduse, cette semaine et la semaine prochaine. À chaque fois, c'est fascinant de voir à quel point les gens apprécient cet objet-là, affirme Christian Lapointe. S'il parle d'objet, c'est qu'Outrage au public est devenu sa houlette créatrice, croisement d'art studio, de théâtre technologique et de cinéma vérité. Loin de lui l'idée de paraître hermétique, mais sa version de ce classique allemand est par définition intrigante et inattendue. Les acteurs qui jouent dans Outrage en public disent « Nous ne sommes pas des acteurs et il n'y aura pas de spectacle. » Je savais que de demander ça à des acteurs aujourd'hui, ça ne marcherait plus, parce que tout est représentation et on n'arrivera plus à arrêter la représentation. J'ai donc pris Hackle au pied de la lettre et j'ai fait dire le texte par des voix de synthèse, des voix d'ordinateur. Il n'y a donc aucun acteur, il n'y a rien d'autre que le public qui se voit lui-même. Et c'est dans ce jeu entre le public qui se voit et le texte qui est dit par la voix d'ordinateur que s'anime tout le réseau de sens du texte, explique Christian Lapointe. En bref donc, les spectateurs d'Outrage au public, version Christian Lapointe, s'assoient dans une salle. Ils sont filmés, ils se voient en direct sur un grand écran. Les voix de synthèse, elles, reprennent le texte d'Uncle. Au bout d'un moment, il y a un revirement qui fait que ce discours assez théorique sur le théâtre devient tout à coup très grand public. Ce qui paraît hermétique ne l'est pas tout à fait finalement, soutient le créateur, qui a un goût assumé pour les propositions hors normes. Pour une rare fois, le public est roi et libre d'agir comme il souhaite. Plus le public est dissident, plus le dispositif fonctionne. C'est un spectacle où tu peux arriver en retard. Le public a le droit d'entrer, de sortir, puis d'utiliser son téléphone comme il veut. C'est en fait un phénomène sociétal intéressant. Ça relève qu'on est culturellement parlant, expose le co-directeur du Théâtre Blanc. Je voulais faire un spectacle où il n'y a que le public, où il n'y a aucune intervention humaine. Étonnamment, il y a beaucoup d'humanité qui en sort. Il y a quelque chose de fascinant dans le spectacle de nous-mêmes. Oui, où j'en étais rendu? Ah oui, voilà. Avec la forme que j'ai donnée au texte de Peter Uncle, tout à coup, ça donnait presque, ça pourrait presque s'appeler « Hommage au public » plutôt qu'outrage, analyse-t-il. Ce spectacle, je le répète, est au studio d'essai de la coopérative Méduse. J'ai regardé ce matin, il reste quatre. Le 10 octobre, le 15 et le 16 et 17 octobre.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité car la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Il se voit déjà doucement, les cousins lui fumant dans un bien-être sûr. Ils choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin deux de ses malappris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est hasardeux sur un de ces fameux bancs, qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.
On vient d'entendre Elizabeth Shepherd qui reprenait les amoureux publics. Peu de gens le savent, mais Geneviève Bessette est l'une des pionnières du cerceau aérien, une discipline de cirque qui n'existait pas il y a 20 ans. Après avoir parcouru la planète avec leur cirque du soleil, voici qu'elle présente son premier spectacle solo, qui s'intitule « Je suis ce que nous sommes ». Jean Siak, dans la presse, a écrit ce papier « Geneviève Bessette, la femme au cerceau ». C'est publié le 8 octobre. Elle avait 11 ans lorsqu'elle a commencé sa scolarité à l'École nationale de cirque. À l'époque, les locaux de l'école se trouvaient à la gare d'Alousie et le cerceau n'était pas encore un appareil de cirque. Son entraîneur n'était nul autre qu'André Simard, ex-gymnaste de l'équipe canadienne qui a formé de nombreux trapézistes. Depuis le début de ma formation en cirque, je voulais me spécialiser dans une discipline aérienne, raconte Geneviève Bessette. créer son spectacle. À 37 ans, Geneviève Bessette avait envie de créer son propre spectacle. Un bonbon, dit-elle, qui lui donnerait la liberté de faire exactement ce dont elle a envie. C'est son amoureux, Machal Garfield, lui aussi ex-gymnaste de l'équipe canadienne qui a travaillé pendant près de 10 ans au Cirque du Soleil comme entraîneur, qui signe la mise en scène de « Je suis parce que nous sommes ». Son but était de montrer tout le talent et la créativité de sa protégée. Ce spectacle-performance composé d'une dizaine de tableaux est centré sur le thème de la présence féminine. Il a été construit comme si toutes les femmes étaient reliées entre elles par des liens invisibles. Ce sont les mots de M. Garfield. Geneviève Bessette y incarnera de nombreux personnages mêlant théâtre et cirque, certains parlant, d'autres non. On y verra bien sûr trois numéros de Circeau, des numéros que l'artiste de cirque qualifie de trilogie et qui ont puisé dans sa recherche des 20 dernières années. Dans le numéro d'ouverture, il y a des ombres chinoises et Geneviève incarne plusieurs personnages de femmes avec un bout de tissu, nous dit Marshall Garfield. Des femmes qui nous sont inspirées à travers le monde. J'essaie de montrer toute l'habileté du mouvement de Geneviève à travers ses histoires. Les créateurs de Je suis parce que nous sommes ont bon espoir de faire une tournée européenne et nord-américaine avec ce spectacle, celui d'une femme pionnière du cerceau qui interpelle aussi son propre rôle. Ce spectacle est au Monument national jusqu'à demain. Avant d'y aller pour une pause, j'ai le temps de faire quelques brèves. Il y aura le Festival du Nouveau Cinéma à Montréal et c'est la 43e édition qui se déroule du 8 octobre au 19 octobre. Toute la programmation est disponible sur nouveaucinema.ca, mais je vais vous en glisser quelques mots. Au total, 40 premières mondiales seront proposées au mordu du 7e art jusqu'au 19 octobre. En ouverture, c'est le premier film américain du Québécois Philippe Falardeau de Good Lie, mettant en vedette l'actrice oscarisée Reese Witherspoon, qui a été projetée mercredi dernier. Il y aura aussi Wild, The Nightcrawler, Boy Choi et Félix Meira. On se rejoint après la pause. À tout de suite.
Écoutez Kiosque Magazine.
30 ans déjà que Trois-Rivières est traversée, transfigurée et transformée quelques semaines d'octobre durant par la poésie. Par les poésies, devrait-on dire, tout style confondu. Car depuis que le Festival international de la poésie de Trois-Rivières, le FIPTR, a été fondé en 82, c'est par centaines qu'on peut compter les poètes qui y sont venus et par milliers les poèmes qui ont été lus. Trois-Rivières baigne dans la poésie, ce sont les mots de Catherine Lalonde qui sont en haut de son article. C'est paru le 3 octobre dans Le Devoir. Le Festival de Trois-Rivières, pour ses habitués, n'est pas seulement un événement de poésie. Je crois qu'on a créé le premier festival du silence au Québec, s'amuse à dire en entrevue au Devoir Gaston Bellemare, président et fondateur du FIPTR. C'est une notion importante, le silence, qui favorise l'écoute pour recevoir et sentir les poèmes. Au fil du temps, le festival s'est mis à l'écoute du public et des poèmes pour bonifier l'interaction, trouver la zone de confort poétique dans cette relation entre le public, le poète et le poème. J'ai vu beaucoup de festivals de poésie à travers le monde où les poètes se retrouvent seuls entre eux. S'il n'était peut-être pas la première édition, la poète et romancière Louise Dupré a beaucoup fréquenté le Festival international de poésie de Trois-Rivières durant le dernier tiers de siècle. Pour elle, ce sont les rencontres qui font la force du festival. Ça permet de découvrir d'autres façons d'écrire la poésie. Même s'il y a plusieurs esthétiques au Québec, rencontrer un poète russe, chinois, espagnol, argentin, ça apporte toute une autre vision. Je suis sûr que ça renouvelle la poésie québécoise dans les thèmes, les approches, les façons de penser et de brasser les idées. Il y a quelques recettes qui sortent de là, mais une réflexion sur la poétique, c'est cette réflexion qui est primordiale. La rencontre avec le public est aussi, selon Mme Dupré, essentielle. Voir les gens émus par une lecture, leur serrer la main ou les aider à travers les ateliers d'écriture à prendre le risque des mots, c'est une citation. Il y a des situations très émouvantes lors des ateliers, explique celle qui adore les animés. Les gens passent à l'acte, prennent la plume, découvrent que c'est exigeant et voient à quel point les écritures peuvent être plurielles. Résidente de Trois-Rivières, Stella Montreuil est une festivalière aguerrie. Elle a commencé à fréquenter le festival quand elle était étudiante à l'université. Elle est de ceux qui avaient demandé à entendre les poètes étrangers aussi dans leur langue maternelle, ce qui ne se faisait pas au début du festival. Quand on entend le poème d'abord en français et ensuite dans une langue maternelle, on jouit beaucoup de sonorités. Ça fait vivre les différentes langues du monde et toute leur finesse. Le festival est un moment privilégié. Dieu sait que la poésie, on ne l'entend pas si souvent que ça. Et l'entendant par le poète, on a accès à une musicalité qui n'est pas la même que si je la lis toute seule. Ce festival est donc à Trois-Rivières pour le mois d'octobre. Je vous reviens avec la date précise. Je l'ai oubliée. Je vous reviens avec ça. Le studio Daily de tous les jours, organisé par Melissa Mondiac et Mouna Andraos, est passé par Lac Mégantic cet été. Avec doigté et empathie pour refaire les ponts, retisser les liens entre l'humain et un paysage à jamais marqué par la tragédie. Ce sont les mots de Mario Cloutier dans la presse, « La marche du vent, passé et pensé ». C'est paru le 8 octobre. Inauguré un an après la tragédie du lac Mégantic en juillet, le parcours La Marche du Vent a réconcilié les habitants de la ville avec un site lourd de mauvais souvenirs. Je pense que c'est le projet qui a le plus interprété la population en raison de la charge émotive qu'il comporte. Le parcours a été pris d'assaut dès son inauguration. C'est très émouvant de voir les gens se revoir, se raconter, explique Stéphane Lavallée, conseiller auprès de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine de Lac Mégantic. Il évoque l'effet thérapeutique du parcours par son alliage d'empathie et de poésie. Il croit que la population avait besoin de ce lieu pour se rencontrer et pour penser à autre chose. L'an dernier, l'état d'esprit était celui de se changer les idées. Le spectacle servait à ça. Cette année, on vit notre deuil pas juste comme une tragédie, mais comme l'expression de la combativité des Mégantiquois. Partant du site du drame, la marche du vent suit la voie ferrée où les trains ont recommencé à circuler. Il raconte l'histoire de Lac Mégantic à l'aide de panneaux permanents. Une zone de promenade et une aire de détente complètent le parcours de 300 mètres. Maison du vent. Le parcours est une œuvre permanente, quoique saisonnière. Son utilisation des derniers mois a démontré aux promoteurs que les habitants et les touristes y passent et repassent, pensent au passé et y pensent leur plaie. En son centre, la Maison du vent est décorée de carillons. Cette petite maison permet de voir le lac que la tragédie a rendu aux citoyens, ce qui permet de faire abstraction de tout ce qu'il y a autour. On revient à la base de cet endroit où la nature est tout simplement superbe, note Mouna Andraos. Des drapeaux ont été plantés le long de la marche pour assurer la continuité. Une aire de repos a été aménagée près du centre sportif avec des hamacs géants. On voulait que les gens puissent se reposer en regardant le ciel, le jour, le soir. Un truc calme, apaisant. On a tissé les hamacs avec les gens de là-bas. Ils se sont appropriés, ils sont à eux, affirme Melissa Modiat. Le parcours n'est pas seulement un témoin, c'est un acteur au cœur du développement du village. C'est une voie tracée vers l'avenir, comme disait Fred Pellerin, qui est venu donner un atelier cet été. Faut se débarrer l'imaginaire. C'est ce que la marche du vent transmet. La version intégrale de La Marche du Vent peut être vue jusqu'à lundi prochain. Ensuite, certains éléments seront remisés pour l'hiver.
Absences parfois sans doute, j'aurais pu m'éloigner. Comme si j'avais perdu ma route, comme si j'avais changé. Alors j'ai quelques mots de tendresse, juste pour le dire. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes au creux de moi. Dans ma vie, dans tout ce que je fais, mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est notre histoire à nous. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous savez tant de moi, de ma vie, de tout ce que j'en fais. Alors mes bonheurs, mes déchirures se partagent avec vous. C'est notre histoire à nous. Je ne vous oublie pas. Parce que le temps peut mettre en cage nos rêves et nos envies. Je fais mes choix et mes voyages, parfois j'en perds le prix. La vie me sourit ou me blesse, mais quelle que soit ma vie, je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes au creux de moi, dans ma vie, dans tout ce que je fais, mes premiers amours. Mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est notre histoire à nous. Je ne vous oublie pas. Même à l'autre bout de la terre, je continue mon histoire avec vous. Jamais, vous êtes au creux de moi, dans ma vie, dans tout ce que je fais. Mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est notre histoire à nous, je ne vous oublie pas. Non, jamais, vous savez tant. J'en fais, alors mes bonheurs, mes déchirures se partagent avec vous. C'est notre histoire à nous. Je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas.
Vous l'avez reconnu, c'est Céline Dion qui chantait Je ne vous oublie pas. Maude Tucci, pardon, excusez, j'ai vu un H où il n'y en avait pas, c'est Maude Cushy, dans Le Droit, nous parle de la nouvelle exposition au Musée canadien de la guerre à Ottawa, une exposition pour réparer l'oubli, c'est ainsi qu'elle titre son papier. C'est paru le 3 octobre dans Le Droit. L'exposition Étranger ennemi, l'internement au Canada 1914-1920, pourrait tout aussi bien s'intituler « Ennemi intérieur ». Contrairement à ce que laisse entendre son titre, il ne s'agit pas de prisonniers de guerre envoyés au Canada pour purger leur peine, mais d'immigrants déjà installés au Canada, dont la citoyenneté, au moment où éclate la Première Guerre mondiale, pose problème. Un volet longtemps occulté de l'histoire canadienne, dont le Musée canadien de la guerre se propose de retracer les principaux enjeux. À découvrir jusqu'au 29 mars 2015. Travailleurs étrangers attirés par la possibilité d'emploi qu'offrait le Canada au tournant du siècle, à une époque prospère, ils sont désormais identifiés comme des étrangers ennemis sur leur terre d'accueil. Au total, 8 579 personnes, dont les trois quarts ukrainiens, seront internés dans un réseau de 24 camps à travers le Canada. La raison principale de cette mesure est la sécurité nationale, explique l'historien John Miker. On craignait que ces immigrants envoient de l'argent dans leur pays d'origine qui aurait pu être utilisé pour l'effort de guerre des ennemis. Mais il y avait aussi le risque qu'ils s'évadent aux États-Unis et rejoignent le camp adverse. L'immigration au Canada pendant l'avant-guerre rappelle durant les deux décennies qui ont précédé la guerre que le Canada cherchait à attirer les immigrants européens dans l'espoir de peupler les prairies et d'obtenir la main-d'œuvre nécessaire à la croissance du pays. Entre 1891 et 1914, c'est 170 000 Ukrainiens qui ont ainsi émigré au Canada. Quand survient le début de la guerre, la loi des mesures de guerre permet la confiscation des biens et l'internement de ces étrangers ennemis, rien de moins. Mais ce qui frappe, au-delà de ces conditions difficiles de détention, c'est la résonance historique de l'appellation « camp d'internement ». C'est l'absence de reconnaissance officielle ou la réparation symbolique de la part du Canada pendant tout un siècle. Il faudra attendre 2005 pour que la Chambre des communes adopte la loi proposant la reconnaissance de l'internement des personnes d'origine ukrainienne. À sa façon, cette exposition très inclusive à l'égard des autres communautés affectées répare un peu cet oubli. Cette exposition, c'est au Musée canadien de la guerre et je le répète, c'est jusqu'au 29 mars 2015. Sur la route, je vous amène en Gaspésie et on se dit que c'est loin la Gaspésie, hein, que faut y penser deux fois avant d'y aller, est-ce qu'il va faire beau, si vous pensez que c'est long en voiture, imaginez à pied. C'est la sortie que nous propose Anne Pelouas dans Le Devoir, écrit le 4 octobre, ça s'intitule « La bottine souriante ». Les premières traversées de la Gaspésie à la marche, une expérience de convivialité. Les couleurs de la forêt gaspésienne étaient à leur apogée cette semaine, dixit Pascal Lévesque. Le directeur du Parc national de la Gaspésie, qui accueillait samedi dernier 125 participants à la traversée de la Gaspésie à bottines, n'a pas été démenti par les randonneurs. Après 12 ans de TDLG, donc la traversée de la Gaspésie à bottines, en ski de fond et 4 en vélo, cette première édition à bottines se termine samedi. Donc, c'est parcourir 115 km à pied, des montagnes à la mer en 6 jours. Au programme dans le massif des Chic-Chocs et de la McJiggle, des sentiers boueux, des roches à éviter, un vent parfois tenace, mais aussi et surtout un départ plein été des Indiens, une forêt et des buissons aux couleurs mordelés, des orignaux et des caribous, des hauts plateaux, celui du mont Albert, où la vue est une récompense de premier ordre à l'effort fourni. Puis, après la mer de montagne, la mer tout court, retrouvée du haut du mont Saint-Pierre, et qu'on ne quittera plus des yeux, de Lance Pleureuse à Fourillon, en passant par Petite Vallée, Lance à Valo. Le tourisme actif. La TDLG est devenue une marque de tourisme actif, un pur produit gaspésien auquel se greffent les étrangers venus de Montréal, Sherbrooke, Québec, voire de France. La grande famille gaspésienne n'est pas regardante, confie Claudine Roy, l'instigatrice de l'événement, cherchant à dynamiser la région hors de la saison festival. La famille, ajoute-t-elle, s'agrandit à la demande. Adopte ceux qui viennent admirer les paysages, partager du plaisir le temps de cette grande fête de plein air et d'amitié. Pour Pascal Lévesque, l'appuyer, c'est donner une chance à la Gaspésie d'étirer l'été. On compte sur les participants pour répandre la bonne nouvelle qu'il fait bon de venir ici en septembre et en octobre. À voir chaque fois les visages fatigués mais heureux des marcheurs, on peut croire au bouche-à-oreille. L'activité a aussi un fort goût de drogue douce. On y vient et on y revient, en passant du ski de fond au vélo et maintenant à la marche. Je vous promets une TLG en marchette, lâche Claudine Roy. On verra bien. Donc, si ça vous intéresse, c'est jusqu'à samedi que se déroule cette grande marche et ce sera possible de vous inscrire pour les prochaines éditions, cet hiver notamment en ski de fond.
Si la route savait dire prends-moi, prends-moi, me le soufflerait-elle de chacune de ses mille voix? Si la route savait rire, se moquerait-elle de moi, sachant que je veux fuir sans trop savoir pourquoi, sachant que je veux fuir en marchant sur ses mille bras? Chaque erreur féconde, faudra que je réponde. Reviens à toi, quand même tu brandiras une à une des mille lois. Comment pourrais-je te rendre le plus vrai des tatouages, celui que le temps aura imprimé sur moi? Qui sait quand la route cessera de vous? Je l'otage quand je cours sans toi. Qui sait quand la route cessera de vouloir de moi? De qui suis-je l'otage quand je cours sans toi?
On vient d'entendre La route de Caracol. Eh oui, je sais, je vous fais bouger cette semaine sur la route, mais que voulez-vous, le tourisme sans bouger, ce serait quoi, hein, sinon que de zapper? Le prochain article, c'est L'île Perrault avec son vélo. C'est un texte de Fabienne Couturier, paru dans la presse le 3 octobre. Je vous propose de voyager sur l'île Perrault à vélo pour faire le tour des vergers. Mais quelle bonne idée! Elle est tout près de la grande ville et on peut s'y rendre à bord du train de banlieue même la fin de semaine. L'île Perrault sera-t-elle la destination idéale pour aller aux pommes sans voiture? Pourquoi l'île Perrault? Parce que, aussi incroyable que cela puisse paraître, il y a là de grands bouts de campagne qui résistent encore et toujours à l'envahissement urbain. Il y a même plusieurs fermes toujours en activité, dont trois qui ouvrent leurs vergers aux visiteurs. La ferme Anse au Sable, la ferme Kin et la ferme La Bonté, respectivement à 9, 10 et 11 km de la gare Pincourt, en passant par le bord de l'eau. Ils sont donc littéralement collés l'une sur l'autre. Il paraît que les gros week-ends, les files d'auto sont pas mal longues, mais les cyclistes, eux, n'ont aucun souci. L'autre tour de l'île. Une fois la cueillette terminée, s'il reste du temps, pourquoi ne pas pousser une pointe jusqu'à la pointe du moulin? Ce n'est qu'à 3 ou 4 km de la ferme, c'est joli comme tout et de plus, c'est à la fois instructif et amusant. Des 18 moulins à vent qui existent encore au Québec, celui de l'île Perrault est l'un des deux seuls qui fonctionne toujours. Le week-end, des comédiens personnifient le meunier qui fait visiter son moulin, sa femme, et sa femme fait honneur les honneurs de sa maison. Une fois là, plutôt que de retourner ensuite sur ses pas, autant continuer pour boucler la boucle. Il n'y a qu'une petite douzaine de kilomètres, toujours en passant par le bord de l'eau, jusqu'à la gare Pincourt. Au passage, on jettera un œil sur la jolie chapelle du souvenir et son vieux presbytère, ainsi que peut-être sur la douzaine d'immeubles du circuit patrimonial de l'île Perrot, essentiellement groupés autour de la chapelle. On peut même se procurer gratuitement une balado-diffusion pour une visite commentée. Est-ce que j'ai le temps de poursuivre l'article? Oui, dans le fond, Madame Couturier nous propose quelques vergers. Premièrement, il y a l'offre de la ferme Queen et celle du verger La Bonté sont à peu près semblables. Équipés pour recevoir du monde en masse, jusqu'à 4000 personnes par jour. Aire de jeu pour les enfants, basse-cour ou animaux de la ferme, labyrinthe tracé dans les champs de maïs, bistrot, produits et plats maison, boutique, etc. Et évidemment, la cueillette de pommes. Et si l'on préfère fuir les foules, on optera plutôt pour la ferme Anse au sable. Là, il n'y a pas de jeu, pas d'animaux, pas de labyrinthe, mais de vastes champs pour marcher en paix. Un millier de pommes d'une dizaine de variétés, toutes ouvertes à la cueillette, plus des poires, des prunes et, selon la saison, divers fruits et légumes des jardins. On y accueille rarement plus de 200 personnes à la fois. Amoureux de la tranquillité, c'est par ici. Madame Couturier rappelle qu'il y a deux gares dans l'île Perrot, mais seulement une où l'embarquement et le débarquement de vélos sont permis, soit celle de Pincourt. Alors, c'est à noter. Voilà, si je répète en fait les vergers, si ça vous tente, c'est la ferme de L'Anse au sable, la ferme Queen et le verger La Bonté. En terminant l'émission, j'aimerais vous proposer quelques activités à faire en famille. D'abord, au centre du Québec, autre rougeur d'automne. Les pommes ne sont pas les seules à être prêtes pour cueillir en octobre. C'est aussi le temps des canneberges, cultivées notamment à Saint-Louis-de-Blanford. Tous les week-ends, jusqu'au 19 octobre, le centre d'interprétation de la canneberge propose plusieurs activités. Visite des cannebergières, où l'on peut voir la récolte de fruits dans des champs inondés. Avec balade en tracteur, démonstration culinaire et exposition éducative. Et ce qui est amusant, c'est que c'est gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Dans les cantons de l'Est, tondons la laine des moutons. Samedi et dimanche, le moulin à la laine d'Olverton propose plusieurs activités destinées aux enfants dans le cadre de Festilaine. Le plus spectaculaire, du moins pour les petits citadins, c'est la démonstration de la tonte des moutons. Aussi, randonnée dans les sentiers, qui comprend notamment un pont suspendu, balade en calèche, visite du moulin à laine datant de 1840, rencontre avec les artisans locaux et dégustation de produits du terroir. Pour plus d'informations, allez sur moulin.ca, c'est dans les cantons de l'Est, à Olverton. Finalement, la randonnée est à l'honneur à l'Outaouais. Ce week-end, les amateurs de randonnée pédestre sont attendus à Duhamel pour le Festival de la Marche. Différents parcours de randonnée guidée sont proposés pour l'occasion. Dimanche, les familles sont invitées à parcourir un trajet destiné spécialement pour elles. Ils contournent le lac de la ferme et tout au long de la boucle de 3,5 km, des légendes concernant le lac sont racontées aux marcheurs. Durée de l'activité, 4 heures. D'autres sentiers mènent notamment à une chute ou à des ponts suspendus au-dessus de la rivière. Plusieurs activités, dont du yoga en plein air et une initiation au géocaching, sont aussi offertes. C'est au Festival de la Marche de Duhamel. Je poursuis avec une activité qui m'a fait rire, qui me fait sourire plutôt, c'est un festival de karaoké. Il rassemble, il amuse, il euphorise les foules. On l'a nommé le karaoké. C'est un peu pour s'amuser, mais surtout pour rassembler les citoyens autour de la culture populaire du plateau Mont-Royal qu'a été créé le projet pilote Héros de karaoké, sorte de grand messe en plein air où même le maire Fernandez a promis de pousser la note. Une web-série documentaire sur l'initiative, mais surtout sur ses chanteurs de l'ombre, sera lancée cet automne. Donc c'est demain encore de 14h à 18h au Parc du Portugal. C'est à l'angle de Marianne et du boulevard Saint-Laurent. Je vais poursuivre avec un spectacle... Non, tiens, je vais y aller avec une sortie de disque qui s'appelle « Jardin mécanique ». Re-bienvenue dans l'univers du jardin mécanique, un monde musical inquiétant et théâtral, digne héritier de l'épisode 1 paru en 2012, La sinistre histoire du théâtre Tintamarre, épisode 2, est à mi-chemin entre l'opéra rock, parfois métal, parfois plus doux, et du film d'horreur. C'est parfait pour l'Halloween, pour ceux qui veulent prévoir le coup. C'est ainsi que se termine notre émission. Merci beaucoup à Kamal Salifou à la régie. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une autre émission de Kiosque Magazine. C'était Charles Roy. Bonne journée. À bientôt.